Bonjour Père Baptiste Pochulu.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes responsable de la liturgie au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Vous êtes également le cérémoniaire au sein de ce sanctuaire marial, un lieu important, un lieu qui s'apprête à accueillir le pape Léon XIV à la fin du mois de septembre. Et avec vous, on va voir un petit peu les coulisses, comment on prépare l'avenue du Saint-Père au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. D'abord, est-ce que vous pourriez, pour qu'on comprenne bien votre rôle et le rôle de la liturgie dans ces préparatifs, nous expliquer quelle est votre mission en tant que cérémoniaire et responsable de la liturgie au sanctuaire?
La venue du pape fin septembre a élargi, si vous voulez, un peu la mission qui est la mienne en temps habituel au sanctuaire. Quand cette venue s'est confirmée, Mgr Mika m'a tout de suite dit que ça serait à moi qu'il voulait confier la responsabilité de la liturgie pour la venue du pape ici au sanctuaire. Et donc, le rôle qui est le mien, c'est de coordonner en lien avec Rome et la Conférence des évêques de France, de coordonner et de préparer l'ensemble des liturgies que le Saint-Père va soit présider, soit va venir vivre aussi au sanctuaire. Le pape vient comme pèlerin au sanctuaire, il vient à la fois comme pèlerin parmi les pèlerins et aussi comme pasteur universel, et donc comme pèlerin parmi les pèlerins, il faut qu'à travers la liturgie, le Saint-Père puisse vivre ce que viennent vivre en temps habituel, en temps normal, n'importe quel pèlerin, n'importe quel fidèle ici auprès de Notre-Dame.
Ça veut dire que les temps forts liturgiques, ils seront les temps forts liturgiques qu'on a l'habitude de voir et de vivre à Lourdes.
C'est exactement ça. Dans une journée du pèlerin, on voit bien que c'est le passage à la grotte, une messe, la procession mariale, enfin voilà. Donc ça, c'est les trois temps forts liturgiques que l'on retrouve du pèlerinage du Saint-Père ici au sanctuaire. Et après, pour les pèlerins aussi, on a, on le sait bien, le chapelet à la grotte, la procession eucharistique, et puis différents temps qui peuvent être proposés comme la présentation du message de Lourdes. Mais quand même, quand on repense aux événements de la grotte de Massabielle, les 18 apparitions de la Vierge Marie, il y a cette visite à la grotte, qui est le cœur de tout pèlerinage, la réponse à la demande de la Vierge Marie de venir ici en procession, et pour le Saint-Père, ça sera de conduire et de vivre cette procession. Oui. Et puis, bien sûr, l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de toute vie chrétienne, comme le rappelle si bien le Concile Vatican II, et donc le pape qui, comme pasteur universel, présidera ici aussi cette grande messe sur la prairie.
Alors, un pasteur et un pèlerin, pas comme les autres quand même, faut bien le dire. On va parler de tous les aspects un petit peu pratico-pratiques, les logistiques, parce que c'est intéressant aussi de voir peut-être le nombre de chasubles qu'il faut, etc. Mais d'abord une question sur l'équilibre à trouver, et sans doute que vous y travaillez, entre la liturgie à respecter, bien sûr, et puis les exigences du protocole pour recevoir un invité, un pasteur et un pèlerin, vraiment pas comme les autres.
Alors, deux choses qui ont conduit justement cet équilibre à trouver, la construction des liturgies au sanctuaire. Première chose, c'est j'ai été nommé ici au sanctuaire, Mgr Mika m'a donné comme maxime, je dis pas comme règle, mais comme maxime, le missel, tout le missel, rien que le missel. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, dans le cadre de la préparation des liturgies du Saint-Père en France, de manière générale, les différentes responsables liturgie des trois villes que le Saint-Père va visiter, nous nous sommes rendus à Rome pour avoir un temps de connaissance et de préparation des liturgies. Et effectivement, j'ai bien retrouvé cette maxime que Mgr Mika m'avait donnée, puisque dès qu'on essayait de réfléchir à des choses, on regardait la présentation générale du missel romain ou la présentation générale de la liturgie des heures pour savoir effectivement ce que l'on pouvait ou comment on pouvait adapter certaines choses pour être sûr que on ait une liturgie qui soit catholique dans le sens universel et qui n'est pas une espèce de liturgie papale papale qui pourrait servir ensuite de référence, enfin voilà, pour quelques inventions liturgiques, voilà. Et le Saint-Père, je crois, l'a rappelé dernièrement dans des catéchèses qu'il fait actuellement sur toute cette thématique de la liturgie, effectivement, comme quoi il fallait s'en tenir à ce qui avait été approuvé. Donc c'est ça qui conduit, ben voilà, toute la mise en place et l'imagination aussi, parce que le bureau de célébration liturgique du Saint-Père, voilà, donne un cadre général, et dans ce cadre général, on a la possibilité de se mouvoir quand même.
Voilà, donc ça, en fait, la ligne à suivre, c'est le missel, et c'est la même ligne, évidemment, pour tous les lieux où le Saint-Père passera lors de ce voyage apostolique en France, que ce soit à Metz ou à Paris, les consignes, la ligne à suivre sont les mêmes.
C'est exactement ça, c'est-à-dire de pas créer de précédent en se disant voilà, le pape l'a fait, donc moi aussi je peux le faire dans ma paroisse ou tel évêque, voilà. Donc c'est ça, c'est pas de ne pas créer de précédent et se dire que dans ce cadre général que le bureau des célébrations liturgiques du Saint-Père nous donne, ben voilà, on a un cadre qui est large, qui est précis et qui est large. Mmh. Donc c'est-à-dire que on sait ce que l'on doit faire donc on sait qu'on peut piocher certaines choses et vraiment nous avons fait voilà, pour la liturgie des trois sites, on a pu arriver avec des idées, des propositions, et puis, eh bien, on a fini en discutant les uns avec les autres. Mais des choses simples aussi, de se dire, ben voilà, on reprend pas tel champ parce qu'il aura déjà eu lieu à Paris, ou on le laisse à Metz, voilà, des choses comme ça.
Le choix des chants, par exemple, ça vous revient. Pour les chants des liturgies ici au sanctuaire de Lourdes, c'est vous qui les décidé.
J'ai travaillé avec le maître de chapelle du sanctuaire, avec Isaiah Ravelli, pour que voilà, chacun dans son domaine de compétences, on puisse donc trouver voilà, les chants. Et surtout par rapport au sanctuaire ici à Lourdes, voilà, on a quand même un patrimoine musical que je me permets de qualifier de centenaire, avec voilà, des compositeurs. On peut penser au chanoine Lesbordes, au père Deschats, au frère Jean-Paul Léco, Isaiah maintenant. Donc voilà, donc il fallait puiser dans tout ce patrimoine musical qui fait l'identité de Lourdes, ou qui fait une partie de l'identité de Lourdes, pour pouvoir eh bien faire une proposition pour les chants qui seront utilisés pour la messe, pour la procession mariale et même pour le temps de prière à la grotte.
Est-ce que vous vous êtes inspiré, est-ce que vous vous inspirez encore de ce qui s'est fait dans les récents voyages apostoliques du pape Léon XIV? Est-ce que ça, pour vous, ce sont des lieux d'exemple à suivre? Vous nous dites que voilà, on entend le travail avec Rome. Ça veut dire que depuis des semaines, vous rencontrez les responsables de la liturgie au Vatican pour préparer cet événement.
Alors, c'est sûr que pour pouvoir préparer les liturgies, avec Ruben, un jeune du service liturgie, on a pu prendre le temps de re-regarder, notamment les messes de Madrid, de Barcelone, pour voir. Et quelque chose qui a été très important, c'est de calculer le temps que prend chaque geste liturgique. Voilà, parce que
la messe doit durer un certain temps et la messe est chronométrée.
Oui, on a un temps imparti pour la messe et donc c'est de savoir, ben effectivement, l'agneau de Dieu, il a duré tant de temps à Barcelone, tant de temps à Madrid. Du coup, ben on fait une moyenne et puis ensuite, ça permet d'essayer d'avoir un déroulé timé de la messe le plus précis possible pour être à peu près certain que la messe va rentrer dans le temps imparti. Donc ça, voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, les précédents voyages apostoliques ont été une aide. Quand on a été à Rome aussi, fait voilà, on a su nous dire voilà les points à ne pas forcément copier ou imiter des voyages d'autres liturgies du voyage apostolique en Espagne ou ailleurs.
Comme quoi?
Alors, l'un des points qui, moi, m'a fait le plus sourire, le maître des célébrations liturgiques du Saint-Père, donc Monseigneur Ravelli, son cérémoniaire, voilà, de raconter le long voyage que le Saint-Père a fait en Afrique. Et la consigne qui est donnée, c'est il est bon que sur le podium où le pape célèbre la messe, il y ait une statue de la Vierge Marie, puisque généralement, enfin voilà, dans l'Église, il y a cette belle tradition de terminer la messe par une antienne mariale, par un chant à la Vierge Marie ou une prière à la Vierge Marie. La consigne, c'est on met la Vierge qui est vénérée localement, enfin voilà. Mais il faut se rendre. Enfin, on sait que Notre-Dame de Lourdes est vénérée localement dans beaucoup d'endroits, et donc en Afrique, elle s'est souvent retrouvée sur le podium liturgique. Et donc, Monseigneur Ravelli de dire, enfin voilà. Ne mettez pas à Paris ou à Metz, ne mettez pas Notre-Dame de Lourdes. Et moi, de lui poser avec un certain, enfin voilà, avec beaucoup de taquinerie la question, j'ai le droit moi de la mettre. Il m'a dit, vous oui, mais pas les autres. Donc ça c'était des choses comme ça. Mais effectivement, à Notre-Dame de Paris ou au Stade de France ou Place de la Concorde, on imagine très bien que il y a la statue de Notre-Dame du Pilier, et puis il y a cette grande statue en argent offerte par le roi Charles X. Voilà, donc chaque lieu aura sa particularité. Donc voilà.
Avant de marquer une petite pause et d'attaquer sur les questions, comme je disais, un petit peu plus pratiques, pardon, j'insiste un peu sur cette question protocole. Comment les exigences du protocole ne prennent pas le dessus sur l'attention apportée à la liturgie, justement? C'est pas tout à fait la même chose.
Oui, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un travail d'équilibre subtil. Donc il y a nous liturge tout le travail que l'on fait pour faire voilà le choix des oraisons, le choix des textes, le choix des chants, des mouvements liturgiques et tout ça. Et ensuite effectivement il y a le travail qui est fait en lien avec la sécurité. Et on l'a bien vu. Quand les responsables des voyages pontificaux sont venus ici au sanctuaire, on a reçu des indications, on a reçu voilà, des choses comme ça, et avec eux, il y avait la gendarmerie vaticane et la garde suisse. Donc on a vu certaines choses. Et ensuite, moi, en parallèle de travailler par le biais de la CEF avec la liturgie du pape à Rome, et aussi, il y a des discussions en interne à Rome, où eux-mêmes discutent de certaines choses, et ensuite des choses comme ça qui redescendent. Mais effectivement, une chose est sûre, mais c'est peut-être mon prisme, enfin voilà, qui me fait voir la chose comme ça. La liturgie prime, voilà. Et la sécurité s'organise autour. Pour ça, je pense juste, enfin voilà, à la procession mariale. Que fait le Saint-Père pendant la procession mariale? Est-ce qu'il processionne derrière la statue ou est-ce qu'il reste sur le parvis? Mais derrière, on comprend les questions de sécurité qu'il peut y avoir. Donc c'est voilà. Mais ensuite, en évaluant toutes les choses, le meilleur choix est posé.
On marque une pause, Père Baptiste Pochulu, et on vous retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion. À tout de suite.